Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce n'est pas tout le monde qui est outillé. Un texte d'Étienne Paré, paru le 13 avril 2026 dans la presse. Depuis 5 ans, elle a été à peu près de toutes les téléréalités au Québec et pourtant, on ne la voit jamais. La psychologue Marie-Claude Larivière agit dans l'ombre auprès des candidats. Sur les plateaux, sa présence est plus que bienvenue, car participer à ce genre d'émission comporte des risques, bien évidemment, pour la santé mentale. Ce n'est pas tout le monde qui est outillé pour affronter le stress que ça génère, explique Marie-Claude Larivière, croisée en février dernier sur le plateau de Survivor Québec au Panama. Un groupe de journalistes avait été invité sur le plateau de cette télé-réalité réputée pour son intensité. Pendant 40 jours, les joueurs sont appelés à survivre sur une île déserte et à s'éliminer les uns les autres. La paranoïa est constante. Leur patience est mise à rude épreuve. Les participants dorment à la belle étoile sur des morceaux de bois. Une expérience sensorielle qui peut laisser des traces. Après l'aventure, certains candidats ont du mal à s'allonger dans un lit normal, préférant passer la nuit sur le sol. Quelques-uns ont ressenti un malaise à l'idée de se retrouver dans une foule ou dans des endroits fermés où il y avait beaucoup de sons. L'être humain n'a pas une switch on-off. C'est normal qu'il y ait une période d'adaptation, mais ça ne dure pas. On n'observe pas de choc post-traumatique, comme avec les militaires, précise Marie-Claude Larivière, qui offre un suivi aux candidats à leur sortie de l'aventure. Les risques de l'expérience. Certains participants des différentes téléréalités sur lesquelles elle a travaillé demeurent même ses patients. Au fil des semaines de tournage, une relation de confiance s'est établie entre elle et eux. Dans le cas de Survivor, une rencontre est prévue chaque semaine. Elle est disponible pour intervenir au besoin. Avant même le début de l'aventure, Marie-Claude Larivière a pris le temps de bien connaître les candidats. Impliquée dans le processus de sélection, elle les a déjà vus à 4 reprises, question de bien les préparer à vivre une expérience en huis clos aussi chargée sur le plan émotif. En toute transparence, elle leur énumère les risques auxquels ils s'exposent en participant à ce genre d'émission. Il faut bien se connaître avant de faire une télé-réalité, affirme la psychologue. Si, dans la vie, tu es quelqu'un d'angoissé à l'idée que les autres ne t'aiment pas, ça se peut que de faire une télé-réalité, ça ait un grand impact, car on ne sait jamais si le public va t'aimer ou pas. Côté vie privée, le retour à la normale est aussi parfois difficile. Dans les 3 dernières saisons de Survivor, plusieurs candidats ont quitté leur conjoint après avoir participé à l'émission. L'adrénaline est tellement forte durant l'aventure. Quand ça retombe, c'est normal de tout trouver plate, de remettre en question son couple, d'avoir envie de changer de travail. Je leur conseille toujours de ne pas prendre trop de grosses décisions en arrivant. Je recommande aussi de ne pas retourner au travail tout de suite, souligne celle qui a 25 ans de pratique. Accident de parcours. La télé-réalité l'occupe aujourd'hui à temps plein. Un bel accident de parcours, explique-t-elle. Il y a 10 ans, Marie-Claude Larivière, qui fait de la musique dans ses temps libres, a participé avec ses filles à l'émission de variété « Un air de famille », animée par Patrice Lécuyer. Elle est par la suite restée en contact avec quelques personnes de la production. Des années plus tard, l'une d'entre elles a écrit sur Facebook qu'elle partait en voyage sous le soleil pour le tournage de la 1ère saison de l'Île de l'amour. À la blague, Marie-Claude Larivière lui a écrit pour lui demander si la production ne cherchait pas une psychologue par hasard. Or, il se trouvait que si. Après l'Île de l'amour, on a aussi fait appel à elle sur Big Brother Célébrité, Révolution, Les Chefs, Occupation double. C'est important de spécifier que je ne fais pas partie de la production. Je ne m'implique pas du tout dans le contenu, explique Marie-Claude Larivière. Évidemment, il y a des désaccords avec la production parfois, mais je dois dire que j'ai toujours été accueilli avec ouverture lorsque j'ai une intervention à faire. Il n'y a pas une psychologue juste pour se donner bonne conscience. Les bons côtés. Même si la télé-réalité est l'un des genres télévisuels les plus populaires dans le monde depuis plus de 25 ans, très peu d'études scientifiques en psychologie s'y sont penchées. Pour développer son approche, Marie-Claude Larivière s'est donc mise à en regarder. Elle n'avait jamais vraiment prêté attention à ce type d'émission avant. La psychologue ne fait toutefois pas partie de ces gens qui regardent de haut la télé-réalité. Au contraire. On parle toujours des mauvais côtés de la télé-réalité, mais on parle beaucoup moins de la beauté qu'il peut y avoir à y participer. Il y a des gens qui en ont fait des carrières. Ce n'est pas toujours négatif de devenir influenceur ou animateur de télé. Il y en a qui se sont fait des amis pour la vie. Certaines personnes se sont mieux connues et ont pu cheminer pour le mieux par la suite, observe la psychologue. D'ailleurs, elle constate que la plupart des participants gardent d'excellents souvenirs de leur expérience. Très peu expriment des regrets. C'était « Ce n'est pas tout le monde qui est outillé », un texte d'Étienne Paré paru le 13 avril 2026 dans « La presse ».
Dossier « Les plaies de pression ». Soins de plaies de pression, une lumière au bout du tunnel. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire, volet « Défense des droits », paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. La prévention des plaies de pression fait l'objet d'une attention toute particulière chez les personnes lésées médulaires. Et pour cause, leur peau, peu irriguée et souvent sous pression, les rend très à risque de contracter des lésions aux conséquences dévastatrices dans toutes les sphères de leur vie. C'est au cours des relances que nous effectuons annuellement auprès de nos membres que nous avons décelé une récurrence importante de ces plaies de pression dont la grande majorité apparaissent durant des périodes d'hospitalisation plus ou moins prolongées. Un recensement plus systématique nous a ensuite permis de constater l'ampleur et la gravité de la situation, et ce, dans toutes les régions du Québec. Nous avons recueilli des témoignages poignants sur les lacunes du système de santé, notamment dans la prise en charge inefficace des plaies et les mauvaises conditions de soins. Ces manquements privent nos membres de leur santé, de leur dignité et de leur potentiel d'intégration sociale durant des années. Ces drames évitables nous ont convaincus de l'urgence d'agir. L'équipe de Mémo Québec a multiplié les démarches auprès de nombreuses instances afin de dénoncer ces lacunes et surtout afin de réclamer une prise en charge spécialisée à la hauteur des besoins spécifiques des personnes lésées médulaires, prises en charge qu'ils sont en droit de recevoir. De telles demandes exigent des démarches à long terme, une attention soutenue sur plusieurs fronts et, bien sûr, des alliés pour nous aider à saisir les opportunités qui s'offrent à nous, et ce, afin d'obtenir des changements significatifs et durables. Ce numéro spécial du Paraquad fait état du travail assidu de l'équipe de Mémo Québec dans ce dossier depuis plusieurs années. Il fait aussi état des collaborations que nous avons établies et de plusieurs gains que nous avons obtenus. Ces derniers serviront de levier dans nos démarches à venir. Ceci nous motive à poursuivre nos actions et nous permet d'espérer des gains plus structurels dans l'ensemble des régions du Québec. Une chose est certaine, on continue le combat. Tel est le souhait de Normand Meunier, qui a payé de sa vie les manquements du système, et de sa conjointe, Sylvie Brosseau, qui parle aujourd'hui en son nom. Telle est aussi notre détermination à Mémo Québec, et ce, jusqu'à l'obtention de soins de plaies de pression qui soient à la hauteur des besoins et des droits des personnes lésées médulaires. C'était « Soins de plaies de pression, une lumière au bout du tunnel ». Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Dossier les plaies de pression. Dénoncer pour mieux soigner, comment porter plainte? Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Que ce soit en raison de services d'aide à domicile fragiles, de soins qui bafouent la dignité humaine ou encore d'une hospitalisation traumatisante dont on ressort plus éprouvé qu'à l'arrivée, il existe dans le réseau de la santé un mécanisme officiel pour faire valoir les droits des usagers. Il s'agit du processus de plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Entrer dans ce mécanisme peut toutefois s'avérer fastidieux et intimidant. Trouver le courage de porter plainte lorsqu'on dépend encore des soins, entreprendre cette démarche alors que l'événement appartient au passé et que l'on souhaite tourner la page ou encore faire face au fardeau administratif que cela représente, tout cela peut aisément miner notre motivation. Pourtant, des ressources existent pour vous accompagner dans cette démarche. Avant de les présenter, commençons par revoir en quoi consiste exactement le processus de plainte et pourquoi il est important d'en faire usage. Quelles sont les démarches pour porter plainte? Lorsqu'un manquement aux droits d'une personne survient dans le cadre de services offerts par un établissement du réseau public de la santé, qu'il s'agisse d'un CIUS ou d'un CIUS incluant notamment les CLSC, les urgences, les cliniques externes, les centres de réadaptation et les CHSLD, une procédure à deux niveaux est mise à sa disposition. La première instance obligatoire consiste à déposer une plainte auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Cette démarche peut se faire en ligne, par écrit ou verbalement. Il est important de rappeler que seule la personne concernée, son représentant légal ou son héritier, peuvent, en vertu de la loi, déposer une plainte. Le commissaire peut recevoir une plainte à tout moment, que ce soit pendant que les faits se produisent ou après qu'ils soient survenus. Cette instance se veut neutre et impartiale. Une fois la plainte déposée, un processus d'examen s'amorce. Le commissaire mène une enquête auprès de toutes les parties concernées. Les conclusions de cette enquête, accompagnées des solutions proposées pour résoudre le problème ou des mesures correctives recommandées à l'établissement, sont ensuite transmises à la personne dans un délai de 45 jours. Recours possible auprès du protecteur du citoyen. En cas d'insatisfaction à la suite des conclusions du commissaire aux plaintes, par exemple, si la décision n'est pas favorable, si elle comporte des erreurs, si les mesures proposées ne répondent pas aux atteintes ou encore si le délai de 45 jours s'est écoulé sans réponse, un recours d'appel s'offre aux plaignants auprès du protecteur du citoyen. Cet organisme public permet également le dépôt de signalement par toute personne, groupe ou association, sans obligation préalable de passer par le commissaire local. Toutefois, contrairement au processus du commissariat, un délai maximal de 2 ans est prévu pour formuler une plainte auprès du protecteur du citoyen, à défaut de quoi le recours est perdu. Dans les 2 jours ouvrables suivants, le dépôt de la plainte, le protecteur du citoyen communique avec le plaignant par téléphone afin de bien comprendre la situation. Une première analyse est alors effectuée pour déterminer si la plainte peut être prise en charge. Dans l'affirmative, un agent appelé « délégué » amorce l'enquête. À l'issue de celle-ci, le délégué informe le plaignant de ses conclusions. Soit il estime que les services de santé ou les services sociaux reçus étaient adéquats et qu'aucune mesure ne doit être recommandée à l'établissement, soit il juge nécessaire de formuler des recommandations. Le protecteur du citoyen a ensuite l'obligation d'assurer un suivi afin d'évaluer la mise en œuvre de ces recommandations. Grâce à son rôle de médiateur et à son statut d'organisme indépendant et impartial, le protecteur du citoyen est en mesure de formuler des recommandations qui sont respectées dans la grande majorité des cas. Porter plainte est primordial. Porter plainte lorsqu'un manquement qualitatif ou quantitatif en matière de soins survient est primordial. Cette démarche permet de consigner officiellement ces manquements, de les rendre traçables et documentés. Elle peut mener à des améliorations concrètes dans les services que vous recevrez à l'avenir et, dans certains cas, à des changements systémiques à plus grande échelle, que ce soit au sein d'un établissement du réseau de la santé ou dans l'ensemble d'une région. Les plaintes jouent également un rôle essentiel de visibilité. Elles permettent de faire reconnaître les manquements vécus par les usagers. Elles constituent des outils indispensables pour les institutions gouvernementales et paragouvernementales, comme le commissaire aux plaintes et à la qualité des services à l'échelle nationale, afin de quantifier et de qualifier les problèmes présents dans le réseau de la santé et d'y réagir de manière éclairée. Des ressources pour vous accompagner. Différentes ressources s'offrent à vous pour vous accompagner dans vos démarches et en faciliter le processus. 1. Le comité des usagers de l'établissement responsable de vos services. Composé majoritairement de bénévoles, ce comité a pour mission d'informer et d'accompagner les usagers, de veiller à ce que toute personne recevant des services de santé soit traitée avec respect et dignité, et d'assurer la reconnaissance et le respect de leurs droits et libertés. 2. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, CAAP, de votre région. Le CAAP est un organisme mandaté par Santé Québec pour assister et accompagner les personnes insatisfaites des services offerts par un établissement du réseau de la santé. Il peut notamment vous aider à bien formuler votre plainte afin d'en maximiser les chances de succès. Les CAAP peuvent également vous soutenir dans la mise en place de mécanismes de protection supplémentaires si vous craignez de subir des représailles à la suite du dépôt de votre plainte. 3. Le Service de défense des droits de Mémo Québec. Mémo Québec offre des services de représentation et d'accompagnement. Nous pouvons vous aider non seulement à déposer une plainte, mais aussi à entrer en contact avec les intervenants du réseau de la santé afin de contribuer à l'amélioration concrète de votre situation. Nous traversons une conjoncture particulièrement difficile, marquée par des défis majeurs et rarement vécus dans le réseau de la santé. Dans ce contexte, les manquements ne doivent ni être banalisés, ni passer sous silence. Porter plainte demeure un geste légitime et nécessaire pour faire respecter les droits des usagers et contribuer à l'amélioration des services, aujourd'hui comme pour l'avenir. Mémo Québec, par sa démarche collective et son mandat d'accompagnement individuel, s'engage à travailler activement au maintien et à l'amélioration de la qualité des services offerts à la population lésée médulaire. C'était « Dénoncer pour mieux soigner, comment porter plainte », un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Les derniers survivants. Découvrez les 10 animaux les plus rares du monde, un texte de Sarah Bachir, paru le 21 février 2026 dans Futura Science. Vaquita, rhinocéros de Sumatra, léopard de l'amour. Découvrez le top 10 des animaux les plus rares au monde. Un voyage bouleversant, au cœur de la biodiversité en danger, entre espèces fantômes et combats pour la survie. Ils ne se comptent plus qu'en dizaines, parfois en unités. Dispersés aux quatre coins du globe, ces êtres vivants incarnent la fragilité extrême de la biodiversité. Ce classement des 10 animaux les plus rares au monde n'est pas un simple inventaire. C'est un état des lieux alarmant et un hommage à la résilience de la vie. Vous allez découvrir dans cet article des espèces que la plupart des humains ne verront jamais et comprendre pourquoi elles en sont arrivées là, au bord du précipice. Avant d'explorer ce monde secret des animaux aux abois, posons une question simple en apparence. Qu'est-ce qui rend un animal véritablement rare? Les spécialistes s'accordent sur trois dimensions fondamentales. La première est l'effectif de population. Un animal rare, c'est d'abord un animal dont il reste très peu d'individus. Certaines espèces se comptent littéralement sur les doigts d'une main, comme nous le verrons avec le vaquita. La deuxième dimension concerne l'aire de répartition. Une espèce peut être rare parce qu'elle n'existe que dans une zone géographique minuscule. Un îlot perdu, une vallée isolée, une seule montagne suffit parfois à abriter une espèce entière. On parle alors d'espèce endémique. Enfin, la densité de population entre en jeu. Même avec une aire vaste, une espèce peut être rare si les individus sont extrêmement dispersés et se rencontrent peu. Pour évaluer ces critères de manière scientifique, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a développé sa célèbre liste rouge, référence mondiale, qui classe les espèces selon leur risque de disparition. Les catégories s'échelonnent de préoccupation mineure jusqu'à éteint à l'état sauvage. Les animaux de ce top 10 appartiennent tous à la catégorie la plus alarmante en danger critique d'extinction, souvent avec des populations résiduelles infimes. Comment en arrive-t-on là? Les causes sont multiples et presque toujours liées aux activités humaines. La destruction des habitats par la déforestation ou l'urbanisation fragmente les territoires. Le braconnage et le trafic illégal vident les forêts de leurs occupants. Les espèces invasives, introduites volontairement ou non, bouleversent des équilibres millénaires. Le changement climatique modifie les écosystèmes plus vite que les espèces ne peuvent s'adapter. Et pour certaines, un faible taux de reproduction naturelle achève de compromettre leur avenir. Ce classement s'appuie sur les données les plus récentes de l'UICN et d'organisations de conservation reconnues. Les effectifs mentionnés sont des estimations parfois approximatives, car compter les derniers individus d'une espèce constitue un défi en soi. Face à ce tableau saisissant, une question brûle les lèvres. Que fait-on concrètement pour éviter l'inéluctable? Les programmes de conservation se déploient sur deux fronts complémentaires. La conservation in situ, c'est-à-dire dans la nature, constitue la priorité absolue. Elle passe par la création de réserves et de corridors écologiques qui permettent aux espèces de se déplacer et de se rencontrer. Des patrouilles anti-braconnage, parfois équipées de chiens renifleurs, traquent les trafiquants dans les zones les plus dangereuses. La gestion des habitats permet de restaurer les écosystèmes dégradés. Le léopard de l'amour bénéficie aujourd'hui d'une vaste réserve en Russie, le parc national du pays du léopard, où les gardes forestiers veillent jour et nuit sur ces derniers refuges. Parallèlement, la conservation ex situ, hors du milieu naturel, agit comme une assurance-vie biologique. L'élevage conservatoire dans les parcs zoologiques et les centres spécialisés maintient des populations en sécurité. Des banques de gènes et de sperme préservent la diversité génétique pour d'éventuelles réintroductions futures. Le programme de sauvegarde du kakapo en Nouvelle-Zélande est devenu un modèle mondial. Chaque oiseau est suivi par capteurs. Ses moindres faits et gestes sont enregistrés et des soigneurs veillent à son alimentation et à sa reproduction avec un dévouement qui frôle l'obsession. La communauté internationale s'organise également à travers des instruments comme la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces menacées, qui régule le trafic et interdit le commerce des espèces les plus vulnérables. L'UICN coordonne les listes rouges et les plans d'action mondiaux. Les ONG comme WWF, Fauna et Flora International ou la Wildlife Conservation Society mènent des actions de terrain souvent héroïques. Pour certaines espèces, comme le vaquita, il est peut-être déjà trop tard. Les filets continuent de se prendre dans les eaux du golfe de Californie et le temps presse. Pour d'autres, des programmes héroïques ont prouvé que l'extinction n'est pas une fatalité. Le tamarin lion doré, le kakapo, l'ibis du Japon sont autant de preuves que la volonté humaine peut inverser le cours des choses. Chaque espèce sauvée est une victoire contre l'érosion silencieuse du vivant. C'était « Les derniers survivants, découvrez les 10 animaux les plus rares du monde », un texte de Sarah Bachir, paru le 21 février 2026 dans Futura Science.